Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Billet d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Ah, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les jours.
Je crois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.
Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième émission du Chaptime, l'atelier des élèves du lycée Chaptal de Mende. On commencera par une chronique sur Gilbert et Georges par Ellie, une seconde sur le célèbre DJ Marshmallow par Justin et Gabriel. Puis, après une pause musicale, Ellie interviewera l'atelier d'écriture du lycée, Pierre nous présentera son poème et Alexandre nous présentera le métier de professeur documentaliste. Après une nouvelle pause musicale, nous finirons par la dernière chronique présentée par moi-même et Justin sur Netflix. Et enfin, le mot mystère réalisé par Alexandre. Ellie, tu as fait des recherches sur Gilbert et Georges. Qui sont-ils ?
Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'art. Vous parlez d'art, je vais vous parler de deux types que je trouve géniaux et qui s'appellent Gilbert et Georges. Et selon leur propre dire, ils sont eux-mêmes des sculptures vivantes. Mais du coup, je vous parle pas de deux types, mais de deux sculptures que je trouve géniales. Mais enfin bref, du coup, ces sculptures, elles s'expriment de nos jours majoritairement à travers des photomontages.
Ouais, attends, des sculptures.
Ouais.
Qui font des photomontages.
Ouais, non, mais il faut suivre, hein. C'est des sculptures vivantes. C'est des sculptures vivantes, je te dis. Bon, du coup, ces sculptures sont nées respectivement entre en 1943 et 42, et ce sont des artistes plasticiens. Mais dis donc, Ellie, c'est quoi un artiste plasticien ? Eh bien, toi qui vis dans ma tête, figure-toi que c'est quelqu'un qui pratique les arts plastiques. En tout cas, la langue française fonctionne. Un artiste plasticien, c'est quelqu'un qui fait des arts plastiques. Bref, ils se sont rencontrés en étudiant donc la sculpture à la St. Martin's School of Arts, un des 6 collèges de l'University of the Arts de Londres. Là-bas, ils ont développé ensemble une première œuvre en collaboration qui s'appelle The Thinking Sculpture. En gros, ils montaient sur une table couverte de peinture dorée et mimaient la chanson Underneath the Arches de Flanagan et Allen, et parfois pendant des heures.
The rips we never sought for. Savoys they can keep. There's only one place that we know, and that is where we sleep. Underneath the arches, we dream our dreams of bom bom bo do bi do. Underneath the bom bom bo di da bo. On cobblestones we long dum bo 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 bo.
Et cette performance, du coup, a forgé les fondations de leur art. Après ça, ils sont intéressés plus à la photographie et leurs premiers clichés sont assez troublants car en fait, c'était des photos qui sont toutes très floues et ça s'explique parce que ces photos, ils les ont prises après avoir beaucoup bu de gin. C'est le gin qui est un alcool qui les affectionne plus que de raison. Et ils ont d'ailleurs consacré une vidéo artistique à ce breuvage. Cette vidéo s'appelle « Gordon's Makes Us Drink ». Et ils boivent lentement et élégamment ce gin, tout en disant de temps en temps « Gordon's makes us drink » ou alors « Gordon's makes us very drink ». Enfin, des variations de la phrase, en gros.
« Gordon's makes us very, very drunk ».
Et donc, ils boivent ce gin qui est de la marque Gordon's. Et là, on touche du doigt une autre de leur particularité, donc ces types ou ces statues, je sais plus, je me perds même. Enfin bref, ces statues ont une classe, une prestance qui est sublime. Ils ont une attitude irréprochable et stoïque de gentleman anglais et un véritable uniforme à tous les deux, qui est simplement en fait un costume 3 pièces, qu'ils portent d'ailleurs très bien. Et publiquement, ils n'apparaissent jamais l'un sans l'autre et ils ne dissocient absolument pas vie privée de leur vie publique. Et parce qu'en effet, comme j'ai dit en introduction, ils se considèrent comme des sculptures vivantes. Tout ce qu'ils font est art, le moindre de leurs gestes, le moindre de leurs paroles est art. Et en bref, ce sont deux soifards déjantés, drôles et amoureux de l'art, un peu comme moi.
Merci Ali pour cette jolie découverte, ça a l'air d'être de belles créations. Justin, Gabriel, à vous l'antenne.
Merci Erine de nous passer l'antenne.
Aujourd'hui, la rubrique qui était censée être sur le jazz sera sur l'électro.
Non, pas possible. Normalement, c'était ma rubrique.
Non. Place à la nouveauté aujourd'hui.
Bon, d'accord pour cette fois. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de marshmallow.
Pourquoi tu veux nous parler de bonbons ?
Mais non ! Marshmallow, c'est un DJ. Il est né le 19 mai 1992. Il a sorti le 3 mars 2015 sa première chanson. Et depuis ce jour-là, il ne cesse de sortir de nouvelles musiques et de gagner en notoriété.
Mais en fait, tu ne sais pas grand-chose sur ce DJ.
C'est normal, il ne veut pas mélanger son travail et sa vie privée. C'est pour ça qu'il porte un casque de guimauve pour garder l'anonymat.
Donc personne ne sait qui c'est après tout ce temps ?
On n'en est pas sûr, mais beaucoup de gens pensent que c'est Chris Comstock.
Et il n'est pas trop mou, Marshmallow ?
Savais-tu qu'il se trouve à la 10e place du classement des DJ internationaux établi par DJ Mag ?
Ah ouais, quand même. Je savais pas ça. Ça change des chanteurs de jazz. Et du coup, en soi, il utilise combien d'instruments pour faire sa musique ?
Il en utilise beaucoup. Il utilise une station audio numérique, qui est un ensemble d'outils électroniques conçus pour enregistrer, éditer ou encore manipuler la musique. Il utilise aussi une guitare et un synthétiseur qui est un instrument de musique électronique capable de créer des sons.
Ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup d'instruments. Et c'est quoi sa musique la plus connue ?
Tu connais pas sa musique ? Elle s'appelle Alone. Elle est très connue, elle passe souvent à la radio. Elle a comptabilisé plus de 1 milliard de vues sur YouTube quand même. Hein. Et impossible de passer à côté en ce moment.
J'en suis la preuve même. Je ne connaissais pas, mais je vais lancer ça maintenant. Ah, merci Justin de me remettre au goût du jour. Yes.
Merci Justin et Gabriel, c'était Hello de Marshmallow. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'au CHAP, il y avait un atelier d'écriture. Ellie, t'as été les interviewer. Qu'est-ce que tu en ressors ?
C'est ça, et ben, en gros, j'ai interviewé Sarah, Juliette et Séverine. Donc Sarah et Juliette sont dans ma classe, et Séverine, c'est la surveillante qui a lancé le projet. Et elles m'en ont un peu parlé, et elles m'ont même fait un petit extrait, mais je pense que l'interview en elle-même sera plus parlant que si je te la raconte. Bonjour, l'interview d'aujourd'hui est consacrée à l'atelier d'écriture. Avec moi, deux camarades et une camarade un peu plus âgée. Bonjour, je vous laisse Ellie. Vous présenter.
Bonjour. Bonjour Ellie. Alors moi je suis Séverine, je suis assistante d'éducation et je suis férue d'écriture. Donc je suis contente de participer à l'émission d'aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait au lycée Chaptal les mercredis après-midi.
Moi c'est Juliette, je suis lycéenne et je suis partie de l'atelier d'écriture.
Et bonjour, moi je suis Sarah, je fais partie aussi de l'atelier d'écriture.
Très bien, et tout d'abord, en quoi consiste l'atelier et il y a quelle visée ?
Du coup, l'atelier d'écriture, c'est un groupe d'élèves, avec du coup des surveillantes aussi, qui se rassemblent pour faire parler un peu la spontanéité de l'écriture, et pour aussi donner quelque chose d'individuel, et puis de le mettre en forme pour le faire partager à des gens, et voilà.
Alors c'est un atelier sans prétention, on n'est pas là pour amener de la technique, faire de l'écriture classique, on est juste là pour être tous ensemble, partir de nous, de ce qu'on est en tant qu'individu, le coucher sur du papier, donc partager notre intimité quelque part, et pouvoir le porter à l'autre. Alors sous quelle forme ? Après ce sera tout le travail de nos ateliers, on va découvrir au fur et à mesure comment apporter nos productions écrites à la scène. Donc sous forme plastique,
théâtrale...
Chanter.
Voilà, et qu'on pense aussi faire un projet pour la fin de l'année, le 6 juin. On veut apporter nos écrits à la scène, que ce soit en les lisant, comme a dit Juliette, de façon théâtrale, ou Séverine, de façon plastique, pour la soirée artistique.
Ça promet. Et à quelle fréquence vous vous réunissez ?
Ça dépend. Enfin, une fois toutes les deux semaines. Enfin, quand on a le temps, en fait, plutôt.
Donc en fait, les participants s'astreignent, et non pas se contraignent, mais s'astreignent à écrire de façon régulière, de façon individuelle, quand ils ont le temps, quand ils ont envie, parce que quelquefois, on est devant un petit peu le syndrome de la page blanche. Hein. Donc là, on leur demande quand même de fournir un effort de régularité, de s'inscrire dans une démarche d'écriture, de se mettre en travail. Et puis ensuite, les ateliers d'écriture, c'est l'occasion de mutualiser tout ça et de voir ce qui sort de nous pour l'amener justement vers l'autre. Mais j'ai oublié la question.
C'était à quelle fréquence, mais voilà.
Les mercredis. Le plus régulièrement possible, dans la mesure, en faisant en fonction des obligations de chacun. Mais on a toujours grand plaisir à se retrouver les mercredis après-midi.
Et combien de membres rassemblent cet atelier, du coup ?
On est 6 ou 7, 7, je
oui,
crois.
Oui, 7 électrons libres. Hein.
Oui,
et ça va bien. En grandissant. Alors, il y en a qui sont plus ou moins intéressés, qui sont un petit peu timides. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour participer à l'atelier d'écriture. On ne mord pas.
Et depuis quand c'est en place, du coup ?
C'est un projet qui est depuis le début de l'année que tu avais, Séverine, non ? Et après, oui. Ça s'est mis en place plutôt vers la quinzaine des arts qui...
Voilà, l'élément déclencheur, en fait, ça a été la quinzaine des arts qui était organisée au lycée. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer cet atelier d'écriture. Donc on en est à notre deuxième séance de travail. Alors il faut savoir que moi, j'ai aucune prétention de technicité ou d'amener une technique aux participants. Je suis plus là pour leur poser un cadre. Et en sachant que plus on pose un cadre défini et des contraintes d'écriture à des participants, plus ça leur laisse libre champ d'aller vers l'imaginaire et d'exprimer et de partir loin. Voilà.
D'accord.
Moi, je suis juste là pour aiguiller un petit peu.
Et du coup, comment se déroulent les séances en principe ?
La dernière fois, on a fait un jeu de surréalisme. En fait, on a un échantillon de ce qu'on a fait là.
Juste, je complète. On fait des jeux surréalistes et puis aussi on parle... Là, tout à l'heure, on a lu nos textes. On parle aussi de ce qu'on aime lire, de choses comme ça.
D'accord.
Et du coup, oui, comme disait Juliette, on a un échantillon de ce qu'on a fait la séance dernière, qu'on va sûrement vous lire.
Mais oui, mais c'était prévu. Si vous voulez, vous pouvez le lire quand vous voulez.
Ok.
Qu'est-ce que l'écriture libre ?
Tout simplement parce que les bananes sont jaunes.
la neige, un jour de cours de 8h à 18h.
C'est comme me demander pourquoi on existe.
Ou bien comme se sentir juste, bien, maintenant, là.
Quand tout dégringole dans la tête.
C'est pire que les chaussettes du Père Noël.
Sylvette a oublié sa perruque ce matin.
Elle finit son histoire en équilibre sur un fil.
C'est aussi important d'imaginer quelque part où on oublie le reste.
Pourtant, Freud m'avait prévenu.
Les littéraires n'auront pas moins d'avenir que les autres.
Parce que la probabilité pour qu'une tuile tombe d'un toit est incalculable.
Mais pourquoi faut-il que le monde tourne à l'envers sur des liasses de billets?
Parce que les cours de philosophie m'embrouillent trop la tête.
La quinzaine des arts échappe, c'est comme...
Une idée qui traverse l'esprit.
Bah merci.
De rien.
Si vous voulez nous en parler, nous...
Bah,
parler de ce texte
peut-être
un peu,
on peut expliquer comment on a fait.
Oui.
Bah, du coup, là, c'est pas nos textes qu'à nous deux, en fait. C'est les textes de tout l'atelier théâtre avec Séverine et plein d'autres. Et donc, en fait, on écrivait une proposition. Et l'autre devait... On l'a caché, la proposition, et l'autre devait répondre. On lui disait juste une piste de comment se terminait la phrase et de comment pouvait l'autre pouvait y répondre ou...
Histoire qu'il y ait une syntaxe correcte, quoi. Mais c'est
voilà,
tout.
C'est ça. Et parfois, il y avait des petits problèmes du coup, qu'on a corrigés, mais je sais pas.
Et vous avez d'autres pistes, des idées, d'autres méthodes de travail des...
Alors, d'autres méthodes de travail, peut-être pas, mais d'autres jeux, certainement. voilà, on a en prévision, par exemple, pour tout à l'heure, de faire un petit peu de cuisine. Donc, un petit exercice de jeu. Voilà, je vous donne. On est assez futuriste dans l'atelier d'écriture. On aime bien s'imaginer des mondes qui n'existent pas encore. Donc, on peut s'imaginer dans un lycée du futur où on devrait, en atelier cuisine, fournir des pilules. Alors, une pilule de réussite scolaire, une pilule de fraternité, une pilule de l'amour. Et pour cela, il nous faudrait des ingrédients, une préparation. Et un conseil de service ou un conseil de conservation. Donc ça, c'est les consignes que, par exemple, je peux donner aux participants de l'atelier. Voilà, vous avez une pilule de l'amour à fabriquer. Qu'est-ce que vous y mettez comme ingrédient? Dans quelle proportion? Donc on utilise tout le langage de cuisine, hein, comme mijoter, mariner, faire bouillir, extraire, réserver. On peut s'en donner à cœur joie. Et ça nous donne des petites recettes bien sympas à la fin. Peut-être qu'on sera assez sympa pour vous en livrer une... pour la prochaine session d'enregistrement.
Ce serait avec grand plaisir.
Plaisir partagé.
Quel genre d'ingrédients?
Alors ça, c'est libre aux participants de trouver. Hein. Ça peut être de la poudre de perlimpinpin. tu vois, une pilule de beauté, un petit peu de galbe de Vénus, une cuillère à soupe, je sais pas moi, de cheveux de Vénus, ou tu vois, ce genre d'idée.
Ouais.
Libre à chacun d'imaginer la recette qui lui plaît pour inventer sa pilule.
Bah, très bien. Merci d'être venu répondre à mes questions.
Merci à toi.
Bon atelier.
Merci Élie, ça a l'air intéressant comme atelier. J'espère que ça donnera quelque chose de bien. D'ailleurs, en parlant d'écriture, Pierre, tu nous as écrit des poèmes. Tu peux nous les présenter?
Oui, déjà, je travaillais sur autre chose. Mais bon, fallait aussi que je fasse un truc pour la radio. Alors j'ai fait un truc pour la radio, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est bientôt le printemps. Donc, c'est bientôt le printemps des poètes. Donc, on va s'entraîner. Qui veut lire le premier?
Moi, je veux bien.
Ok, tiens. Qui veut lire le deuxième?
Je le sens mal, ton poème.
Oh, il n'y a que le troisième qu'il faut que tu sentes mal.
Je peux lire le troisième?
Tiens.
C'est une petite surprise, là.
Ok. Du coup, on commence par le premier. Je les avais rangés dans l'ordre, on va dire du croissant vers l'horreur, vous allez voir. Hein.
Pour un stylo, pour un clavier, pour un simple bout de papier, je m'enchante d'une mélodie à l'odeur de mélancolie. Enfanté encore d'un écrit, accouché d'une autre histoire, c'est là mon bonheur illusoire, de l'écrivain ma frénésie. Que puis-je encore bien inventer? Que vais-je encore imaginer? La fontaine jamais ne se tarit. Et lorsque l'ébauche est finie, et lorsque sur le clavier, le bout, dernier, tac, se fait ouïr, du bec du stylo, le dernier soupir, je ne veux plus recommencer.
Un printemps pluvieux. Une odeur de pluie qui passe et s'enfuit, un nuage de verdure tel de l'eau sur une peinture. Du pollen couleur d'or, un peu de pétrichor, et quelques vêtements cirés contre un temps bien embrumé. Cette saison qu'adore les champs, qui s'abat sur les montagneux carcans, qui donne à boire à nos hauts lieux, c'est en Lozère, le printemps pluvieux.
Donc le mien, c'est un poème qui n'a pas de nom. Enfin, je crois que Pierre a honte du nom qu'il a donné.
Non,
donc
je ne trouvais pas de nom, alors j'en ai mis un que je trouvais nul à peu près 10 minutes plus tard. Alors, je te préviens, celui-là, il risque d'être dur à lire.
Non, ça va. Il me semble pas. La nuit, dame fugitive quitte son siège de pâle et sa mélancolie plaintive part dans un silence râle. Puis la voûte céleste se pâme et rougit devant son amour doré. Lui qui remplace sa sœur mal-aimée et pour qui brûlent des artistes les âmes. Et l'océan d'éther apparaissant enfin, en montagne de neige du grain le plus fin, de teindre d'un blanc immaculé le ciel, tache nivéale sur une feuille de spinel.
On commence par le premier. Et par un
frénésie d'écrivain.
Ouais. Honnêtement, d'un point de vue, on va dire, de l'équilibre entre la forme et le fond, c'est le plus abouti des trois, je trouve, parce que celui qui n'a pas de nom, il explosait dans la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Et Printemps pluvieux, dans le fond, il était un peu vide, je trouve, en le relisant, et celui-là, je trouve qu'il est bien.
Ben, je trouve que Printemps pluvieux est assez léger, c'est une belle description. Ben, j'aime beaucoup la Lozère, du coup j'aime beaucoup Printemps pluvieux, je trouve. Enfin, il est très beau, je trouve. Enfin, il y a un temps de merde même au printemps, mais on aime ça, quoi.
C'est surtout, en fait, j'avais envie de pluie. C'est...
Mélancolique.
Non, c'est juste comme quand tu manges tout le temps la même chose. C'était littéralement, j'en ai marre, je veux de la pluie. Même au printemps, il y a du soleil.
Réchauffement climatique.
Et pourquoi le troisième ?
Le troisième ?
Ouais.
Bah, j'ai voulu vous jouer un sale tour, en fait. Je me suis dit, qui c'est qui va tomber sur le dernier ? Parce qu'en fait, je les ai fait tous lire. Pas forcément à la même personne, mais je les ai fait tous lire. Et celui-là, c'est le plus hermétique. Alors, en gros, ce que ça dit, j'ai pris un concept super simple et j'ai mis des tonnes et des tonnes de formes dessus. Alors, en gros, ce que ça dit en résumant, c'est « Il fait nuit, le soleil se lève et il fait jour ». Voilà. Mais bien formulé.
Et c'est ça la beauté de la poésie. Personnellement, c'est pour ça que j'adore la poésie.
Moi, j'ai une dernière question.
Ouais.
J'ai envie de savoir quel était le titre, le troisième.
Le titre du troisième.
La nuit, puis le jour.
Ouais, t'étais presque sur ça. C'était, je crois que c'était Vers du ciel du matin. J'avais tellement pas d'idée pour le nom que je suis allé voir sur un site qui donne des synonymes, en fait. Alors voilà.
Comme quoi, il y a de vrais talents au chat. Merci Pierre. En continuant sur cette lancée d'écriture, Alexandre est allé interviewer Madame Jaffuel pour en savoir plus sur son métier de professeur documentaliste au CDI du lycée Chaptal.
Bonjour, vous êtes documentaliste au lycée Chaptal. En quoi consiste ce métier ?
Bonjour, oui, je suis professeur documentaliste au lycée Chaptal. Ben, c'est un métier très varié qui consiste à accueillir les élèves en groupe ou individuellement, à les former à la recherche documentaire, aux sciences de l'information et de la documentation. On prépare aussi des ressources pour l'ensemble de la communauté dans le lycée, c'est-à-dire les élèves, bien sûr, mais également les collègues, enseignants, toutes les équipes de l'établissement. On a aussi un rôle culturel, donc d'apport culturel auprès de toute la communauté, mais principalement des élèves. Donc on doit proposer des ressources en littérature, mais également en sciences, dans tous les domaines du savoir. On est équipé ici de salles informatiques qui permettent également de travailler dans les domaines numériques. On a également un rôle d'accès à l'information sur l'orientation pour aider et accompagner les élèves dans leur parcours personnel autour des filières d'enseignement, pour qu'ils réfléchissent aussi aux différents métiers qu'ils voudraient exercer. On travaille à la fois avec les élèves seuls en accompagnement ponctuel ou alors avec des projets ou culturel, ou dans le cadre de travail qui va être proposé par différents enseignants. Donc, on travaille avec tous les domaines, les sciences, la littérature, l'histoire-géographie et l'orientation, donc.
Merci. Comment fait-on pour devenir professeur documentaliste ?
Alors, on prépare un CAPES à partir d'un master en MEEF, métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mes sections information documentation. C'est comme on préparerait en mathématiques ou en philosophie, mais là on prépare sur les sciences de l'information et de la communication. Accès, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire aussi important, on forme aussi les élèves à l'esprit critique pour accéder aux médias, pour comprendre les médias, identifier telle ou telle source d'information. Donc ça fait partie de notre formation. Et donc on a un CAPES avec des épreuves écrites et des épreuves orales, comme les autres collègues.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Bah tout en fait. La variété, être dans une posture d'aide, d'accompagnement auprès des élèves, de les aider tout au long de leur vie finalement, de leur donner le goût d'apprendre par eux-mêmes, d'avoir une autonomie, parce que ça fait aussi partie de nos fonctions, de nos missions. Et donc on est plus dans une posture d'être à côté de l'élève pour progresser avec lui, chercher avec lui et être vraiment dans une démarche d'autonomie. J'aime aussi beaucoup, parce qu'au CDI, on a beaucoup de différents types d'élèves qui se croisent. On peut avoir des élèves de BTS, des élèves de seconde, des professeurs, et tout le monde travaille ensemble et se côtoie, et ça, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi faire découvrir aux élèves des nouveaux livres, des expos, voilà, tout plein de choses. C'est la variété et la possibilité et la richesse du métier, et c'est toujours renouvelé en fait. On n'a jamais de lassitude, c'est pas possible.
Et qu'est-ce qui vous plaît le moins ?
Honnêtement, pas grand-chose. Non, vraiment, je peux pas vraiment dire qu'il y a un domaine qui me plaît moins, non.
Est-ce une vocation ou pas ?
En quelque sorte, oui. J'ai toujours voulu être enseignante. Et en même temps, j'ai adoré les livres et lire. Donc, je dévorais tous les livres qui me tombaient sous la main. J'en lisais des centaines. Et le métier a été créé en 1989. Le CAPES a été créé en 1989. Et c'est une chance parce que du coup, j'ai pu attraper cette possibilité-là pour pouvoir combiner mes deux envies professionnelles. Et c'était vraiment quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire.
Est-ce que vous avez des petites anecdotes ou pas dans votre métier ?
Lorsque j'ai commencé, j'ai eu la chance de participer à un projet autour du bassin méditerranéen. Avec le lycée entier, en fait, dans lequel je travaillais à l'époque. Et on a pu partir, tout le lycée a pu partir sur un bateau jusqu'au Maroc, avec une traversée en Méditerranée, des conférences. Donc il y avait des sciences, il y avait de la géographie, de l'histoire, des langues, et c'était génial, quoi. Tout le monde était sur le même bateau.
Et sur quel autre secteur au lycée vous intervenez ?
Mais je suis référente numérique au niveau du lycée, donc c'est moi qui m'occupe de à la fois communiquer, diffuser toutes les informations nécessaires pour. Je suis du côté des enseignants, mais surtout des élèves et de leurs parents. Donc je leur communique les informations nécessaires pour se connecter aux espaces numériques, pour leur permettre d'accéder à leurs ressources, à leurs classes, à leurs devoirs, etc. Et j'essaye de gérer les problèmes. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe techniquement, mais d'avertir, de prévenir lorsqu'il y a des soucis au niveau de l'accès à la Wi-Fi notamment, entre autres.
Et dernière question, vous pensez quoi des gens qui traversent le CDI pour rejoindre d'autres salles, sachant que c'est interdit ?
Alors, de manière générale, je trouve que les élèves sont super et super respectueux et qui comprennent vraiment l'objectif. Après, je pense que c'est comme tout dans toute la société. On a un réflexe individualiste, c'est-à-dire les élèves ne voient pas forcément le mal en se disant « je suis tout seul et je traverse, donc je ne gêne pas ». Mais moi, je vois ça du côté collectif et de la gêne que ça peut produire lorsque trop d'élèves traversent de manière en groupe, par exemple, en faisant du bruit. Donc voilà, je trouve que de manière générale, quand même, c'est bien respecté du moment qu'on explique. C'est toujours la même chose, du moment qu'on explique pourquoi on demande aux élèves de ne pas traverser.
Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
Et merci à vous, à bientôt.
joker and paint my jokes upon you while there's nothing better to do.
Ensuite, place à la télévision avec Netflix. Justin, ça te dit on va regarder un film sur Netflix ?
Netflix ? C'est quoi ça encore ?
T'as jamais entendu parler de Netflix ?
Non, je crois pas. Tu peux m'expliquer ce que c'est ?
Netflix, c'est une entreprise qui a été créée en 1998 aux États-Unis. C'est une plateforme de vidéo à la demande. À l'origine, Netflix, c'était juste une plateforme qui louait des DVD à ses clients. Ils recevaient et renvoyaient des DVD par colis. Mais bon, ça a bien changé depuis le temps. Vive la modernité.
Mais qu'est-ce que tu entends par changer ?
Depuis, le site s'est modernisé en utilisant la révolution technologique du cloud computing.
Le cloud computing ? Tu parles brinois, là, hein ?
Le cloud computing, c'est une nouvelle forme de stockage de données du 21e siècle. Netflix en est donc emparé. C'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a plus besoin de renvoyer ses DVD. Tous les films sont stockés dans un espace virtuel, qui est le cloud auquel n'importe quel ordinateur ou télé peut avoir accès via Internet. En 2013, Netflix compte 40 millions de membres. Un Américain sur trois, entre 20 et 50 ans, a accès immédiatement et à volonté à plus de 100 000 titres.
Netflix par-ci, Netflix par-là. C'est un succès américain. Je vois pas ce que ça vient faire en France, moi.
Détrompe-toi, Netflix, c'est le cœur de l'actualité. Cette entreprise s'est éparpillée dans près de 50 pays dans le monde et elle continue de faire le buzz. Elle fait même des offres de travail.
Ah ouais. Mais c'est quoi exactement comme offre ?
Tu peux travailler depuis ton canapé. Tu passes ta journée à visionner des programmes TV, des séries et des films présents sur la plateforme. Les qualités recherchées et mentionnées dans cette offre d'emploi d'un genre particulier, expert en film et télévision. Dans le langage des fans de Netflix, ce job s'appelle tagger, l'occasion idéale de transformer son passe-temps en métier. Bref, Netflix vous paye pour regarder des films et ça devrait plaire à de nombreux gens.
Mais du coup, en soi, ça sert à quoi Netflix ? Parce que là, tu m'as pas convaincu.
Netflix, c'est un service privé de location de vidéos à la demande. Quand tu t'y abonnes, t'as accès à un catalogue de films et de séries que l'on peut visionner chez soi ou ailleurs tant qu'on a accès à Internet. C'est un peu l'équivalent de la vidéo. C'est un peu l'équivalent pour la vidéo du site internet musical Spotify.
Spotify quoi ?
Laisse tomber. On verra ça plus tard.
Bon, bref, continue.
Quand tu t'abonnes à Netflix, tu payes un abonnement qui va de 7,99€ jusqu'à 13,99€. Les gens vont adorer regarder leurs séries dans leur lit. Mais faut noter que le premier mois d'abonnement est gratuit, c'est vraiment super important ça.
Mais justement, vu que Netflix s'est implanté en France, ça pose pas des problèmes de visionnage aux séries diffusées par exemple sur TF1 ? Parce que je veux pas voir Demain nous appartient disparaître, moi.
Eh oui, Netflix, c'est le plus gros concurrent pour les sociétés qui proposent de la vidéo à la demande. Et même pour la télévision classique, tout le monde connaît et quasiment tout le monde a Netflix. C'est un avantage d'avoir Netflix. Il y a plein de films récents et le fait que ce soit un abonnement, c'est beaucoup plus simple que d'aller louer ses films.
Ah ouais, mais ça a l'air vraiment bien en fait.
Ouais, mais faut pas oublier les autres plateformes qui existaient bien avant, comme Canal Play par exemple, qui propose une location de films un peu plus anciens et des séries en illimité à partir de 6,99€ par mois. Mais Netflix propose quand même davantage de titres et les renouvelle régulièrement. Aussi, il y a une autre chose à savoir. Netflix produit également ses propres séries ou films. Je pense par exemple à House of Cards ou même Black Mirror, qui sont des vraies pépites.
Ah ouais, mais il y a que des films américains sur Netflix en fait.
Bah non, Jamie. Il y a beaucoup de séries et de films américains, effectivement, mais pas que. Les catalogues de films et de séries proposés sont différents d'un pays à un autre, et on retrouve des productions de nombreux pays. Une petite sélection, par exemple. Doctor Who, il y a 7 saisons, Lie to Me, Homeland, Orphan Black, etc. Et du côté du cinéma, on retrouve Le Mépris, Quai des Orfèvres, Le Cœur des Hommes, ou encore des classiques US comme Star Trek, Je suis une légende, Marie à tout prix.
Ah ouais, tu m'as carrément convaincu sur ce coup-là. Écoute, je vais aller essayer, je t'en donnerai des nouvelles.
Merci Justin, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur cette plateforme en ligne. Passons pour finir au mot mystère. Nous sommes retournés voir les lycéens pour leur demander ce que veut dire le mot brandon, qui veut dire une torche qui prend feu.
Peux-tu nous lire ce mot ?
Un brandon.
Essaie de deviner ce que c'est.
À manger ? Après, il y a le signe de l'argent, genre sur le S. Ou alors, il est barré. Je crois que c'était plutôt qu'il était barré. Ça peut être une personne aussi, comme le prénom, Brandon.
Et essaie de faire une phrase avec ce mot.
Un brand donne des cigarettes aux affiches.
Un brandon. Alors, pour moi, un brandon, c'est un espèce de petit gobelin qui serait assez pyromane, genre il aimerait bien tout ce qui brûle et tout ce qui explose un petit peu. J'aurais un petit peu des mèches partout sur lui. Et voilà, pour moi c'est ça. Les brandons c'est quand même assez dangereux parce que ça peut... si on laisse quelque chose qui pourrait exploser, c'est très dangereux parce qu'il va aller directement dessus et le faire exploser. Et ça crée pas mal de catastrophes.
Un brandon. Alors pour moi c'est le cousin éloigné de la brandade de morue. J'adore le brandon de morue.
Un brandon. Un brandon. Alors, moi, je vois soit un truc politique, soit un poisson, mais je sais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pêché un brandon.
Un brandon. J'en sais rien, c'est peut-être genre... je sais pas, un gars assez célèbre, ou alors genre, tu sais, un peu comme Don Juan, genre un mec qui pêche à peu près tout, et puis... Genre, ça, c'est un brandon et tout, américain, tu vois. J'aimerais bien être un brandon.
Alors Brandon c'est un prénom, mais un brandon, un morceau de bois, je ne sais pas. J'ai buté sur un brandon dans la forêt.
Un brandon. Bon bah Brandon c'est un prénom, du coup un brandon ça doit être un brandon parmi tous les gens qui s'appellent Brandon. Je suis un brandon.
Alors c'est un brandon, du coup c'est le nom d'un personnage dans Game of Thrones, Brandon Stark. Et voilà. Hier, je regardais Brandon Stark. Ouais, t'as vu, il est mort. Ouais, désolé pour le spoil. Non, je sais pas. Je vous assure, la saison n'est pas encore sortie. Je ne sais rien.
Je sais pas. J'aurais envie de dire que c'est un mélange de brindille et de randonnée. Alors, je sais pas, on fait une randonnée et on rencontre une brindille qui nous plaît et on la rapporte pour la mettre dans le feu ou pour en faire un tableau. Je sais pas. Je me suis promenée hier sur le cause, j'ai trouvé ce Brandon, il m'a plu et je crois que je vais en faire quelque chose.
Un Brandon, je sais pas, un truc scientifique. Cette pile a un Brandon.
Un Brandon, c'est une personne très bizarre de ma classe. Hier, un Brandon s'est tapé un 0 sur 20 en maths.
Un Brandon, un poisson. Les Brandons vivent dans la mer.
Un Brandon, une personne. Un Brandon qui court dans la rue.
Un Brandon ou un Brandon ? Quelqu'un de ma classe. Il y a un Brandon dans ma classe.
Merci Alexandre pour ce mot mystère et merci à vous d'avoir écouté. Rendez-vous le mois prochain, la même heure, sur la même chaîne pour une nouvelle émission.
Ciao, ciao.
Ciao.
Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Billet d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Alors c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose de d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les
fois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.